Vous écoutez, on lit pour vous.
Tension en Nouvelle-Calédonie. Une chronique de Philippe Bernier-Arcan, parue le 7 juin 2024 dans l'Acadie Nouvelle au Nouveau-Brunswick. La Nouvelle-Calédonie, territoire français dans le Pacifique Sud, a été le théâtre de violentes émeutes au mois de mai, causant plusieurs morts et blessés. Ces tensions trouvent leur origine en partie dans une réforme électorale controversée, mais aussi dans l'histoire complexe de cet archipel surnommé « le Caillou ». Conquise par la France en 1853, la Nouvelle-Calédonie est devenue une colonie de peuplement, notamment à travers la colonisation pénale. Des vagues successives de migration, principalement pour travailler dans les mines de nickel, ont également marqué son histoire. Ainsi, la population autochtone de Nouvelle-Calédonie, les Kanaks, a vu son poids démographique diminuer progressivement, devenant officiellement minoritaire depuis le recensement de 1963. La colonisation française a également entraîné la dépossession des Kanaks de leurs terres, les reléguant dans des réserves. En 1946, la Nouvelle-Calédonie passe du statut de « colonie » à celui de « territoire d'outre-mer » et les Kanaks, précédemment soumis au régime de l'indigénat, obtiennent la citoyenneté française. Malgré ce changement, les inégalités persistent et les années 1970 et 1980 sont marquées par une montée des revendications indépendantistes kanaks. Les tensions entre les indépendantistes et les non-indépendantistes entre 1984 et 1988, période pudiquement appelée les « événements », ont entraîné plusieurs morts et culmineront en 1988 avec la prise d'otages de gendarmes par des militants kanaks et l'assaut militaire français sur la grotte d'Ouvéa, causant 21 morts. La même année, les accords de Matignon, qui ont permis le rétablissement de la paix civile, sont signés, prévoyant une période de transition de 10 ans avec un référendum sur l'indépendance à son issue. Cependant, en 1998, au lieu du référendum prévu, l'accord de Nouméa est signé, reposant sur une autonomie progressive et prévoyant 3 référendums après 10 ans. Ces référendums se sont tenus en 2018, 2020 et 2021, avec des résultats de 56,7% et 53,26% contre l'indépendance lors des 2 premiers et 96,5% lors du dernier, bien que celui-ci ait été contesté en raison d'un boycottage des indépendantistes lié à l'épidémie de COVID-19. Avec les 3 référendums passés et les victoires successives du non, peut-on considérer la question comme réglée? Le 3e référendum a suscité des réserves lors de la 78e session de l'Organisation des Nations Unies, incitant l'Assemblée générale à encourager toutes les parties concernées à poursuivre le dialogue conformément à l'accord de Nouméa de 1998. L'accord de Nouméa a instauré un gel du corps électoral, limitant le droit de vote pour les référendums d'autodétermination et les élections provinciales aux personnes résidant en Nouvelle-Calédonie et inscrites sur les listes électorales en 1998, ainsi qu'à leurs descendants. Cette mesure vise à garantir que les décisions cruciales concernant l'avenir politique du territoire soient prises par les résidents de longue date. Le gel du corps électoral visait aussi à empêcher que la communauté kanak, représentant environ 40% des 270 000 habitants, ne perde son poids politique aussi rapidement que son poids démographique, sous l'hypothèse de migration massive de citoyens de France métropolitaine. C'est justement une révision constitutionnelle récente prévoyant l'élargissement du corps électoral, gelé depuis 1998, à tous les natifs calédoniens et aux résidents depuis au moins 10 ans, qui a ravivé les tensions. En examinant les résultats des référendums, plusieurs chercheurs ont remarqué une cristallisation du vote, une tendance qui s'est renforcée jusqu'au dernier référendum, où les Kanaks ont massivement soutenu l'indépendance, tandis que les non-Kanaks ont majoritairement voté contre. Selon le géographe Pierre-Christophe Pantz, chercheur à l'Université de Nouvelle-Calédonie, consulté pour cet article, le revers de la médaille, après plus de 3 décennies d'équilibre et de stabilité politique depuis les accords de Matignon en 1988, réside dans l'échec des indépendantistes et des non-indépendantistes à convaincre l'autre camp et à unir Kanaks et descendants des colons européens, appelés Caldoches, dans un même projet de société. La société néo-calédonienne est de plus en plus polarisée, avec certains groupes du camp du non qui tendent vers l'extrême droite, tandis que certains segments du camp du oui ont également adopté des positions plus radicales. Les inégalités économiques et sociales entre les populations Kanak et Caldoches sont manifestes et des barrières importantes persistent entre ces deux communautés. Il est essentiel de trouver de nouvelles voies de compromis pour toutes les communautés plutôt que de considérer la situation comme réglée. D'ailleurs, selon le Comité spécial de la décolonisation de l'Organisation des Nations unies, la Nouvelle-Calédonie demeure l'un des 17 territoires non autonomes dans le monde, ce qui signifie que ces populations ne s'administrent pas encore complètement par elles-mêmes. C'était « Tensions en Nouvelle-Calédonie », une chronique de Philippe Bernier-Arcan, parue le 7 juin 2024 dans l'Acadie Nouvelle au Nouveau-Brunswick.
Un nouveau défibrillateur s'implante au Québec. Un texte d'Alice Girard-Bossé, paru le 18 mai 2024 dans la presse. Efficace mais douloureux, les défibrillateurs sous la peau sauvent des vies en donnant une décharge au cœur pour rétablir un rythme normal. Or, une nouvelle option qui réduit la douleur et les risques de complications vient d'être implantée chez des Québécois cette semaine. Une première dans la province. Tout a bien été. Ce défibrillateur nouvelle génération a été implanté chez un homme et une femme jeudi, le 16 mai 2024, à l'Institut de cardiologie de Montréal, ICM. L'intervention fut un succès, se réjouit la docteure Blandine Mondésert, cardiologue de l'ICM. Ils n'ont quasiment pas de douleur. Tout a bien été. Les défibrillateurs ont été testés et chaque fois, ils ont bien fonctionné, dit la spécialiste. Le premier patient a eu son congé le soir même et la deuxième le lendemain matin. Pour prévenir les arrêts cardiaques, l'ICM pose environ 550 défibrillateurs cardiaques chaque année. Sauver la vie du patient. L'infarctus, les problèmes de valves cardiaques et certaines infections virales peuvent affaiblir le muscle cardiaque et provoquer des troubles du rythme. Ces pathologies peuvent notamment entraîner des battements cardiaques rapides, potentiellement dangereux. Dans ces situations, un défibrillateur, un appareil électronique qui écoute le rythme cardiaque en permanence, peut être implanté chez le patient afin de potentiellement lui sauver la vie, dit la docteure Mondésert. En cas de trouble du rythme, deux sortes de traitements peuvent être offerts. Soit le défibrillateur envoie une douloureuse décharge électrique, soit il stimule rapidement le cœur de façon indolore, ce qu'on appelle le traitement ATP. Diminuer les complications et la douleur. Jusqu'à maintenant, il existait deux principaux types de défibrillateurs. Le premier, implanté directement dans les veines du cœur, peut stimuler le cœur grâce au traitement ATP. Toutefois, le positionnement de l'appareil électronique dans les vaisseaux sanguins peut engendrer des complications, indique la docteure Mondésert. Le second type de défibrillateur, implanté sous la peau, diminue les complications mais ne peut pas utiliser le traitement ATP. Le nouveau défibrillateur posé jeudi combine les avantages des deux méthodes précédentes sans leurs inconvénients. Il permet ainsi de stimuler le cœur sans douleur, mais également sans les risques élevés de complications, puisqu'il n'est pas installé à l'intérieur des vaisseaux sanguins. Des traumatismes liés au choc. Si possible, les décharges induites par le défibrillateur sont à éviter. Certains ont des traumatismes psychologiques à la suite d'un choc, comme des syndromes post-traumatiques, dit la docteure Mondésert. Par ailleurs, des études démontrent que de recevoir une décharge du défibrillateur augmente le risque de mortalité à long terme, indique-t-elle. le nouveau défibrillateur de l'entreprise Medtronic, devrait éviter les décharges dans 70 à 80 des cas. Des décharges peuvent tout de même être délivrées si le traitement de stimulation cardiaque s'avère inefficace. En voie de se répandre. Plusieurs centres hospitaliers au Québec offrent également la pose de défibrillateurs, notamment le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, CHUS, le Centre universitaire de santé McGill et l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, IUCPQ. Ces établissements devraient procéder prochainement à l'implantation de ces nouveaux défibrillateurs, indique la docteure Mondésert. L'IUCPQ va en mettre bientôt chez des patients. Ils sont quasiment prêts, dit-elle. Ces défibrillateurs de nouvelle génération ne pourront toutefois pas être posés chez tous les patients puisqu'ils ne peuvent pas être implantés chez quelqu'un qui a déjà eu une opération cardiaque. C'était « Un nouveau défibrillateur s'implante au Québec », un texte d'Alice Girard-Bossé, paru le 18 mai 2024 dans La Presse.
Qui étaient les individus sacrifiés par les Mayas? Un texte de Pauline Gravel, paru le 12 juin 2024 dans Le Devoir. On savait qu'entre 500 et 1000 ans après Jésus-Christ, les Mayas de Chichen Itza, au Mexique, ont effectué des sacrifices humains pour s'attirer la faveur des dieux. Mais on ignorait une foule de détails, notamment sur l'identité et l'origine des individus qui étaient sélectionnés pour ce rituel, ainsi que sur les raisons qui motivaient leur choix. L'analyse de l'ADN prélevé sur les ossements de ces personnes ayant été sacrifiées en offrande aux dieux a permis d'éclaircir plusieurs de ces mystères qui sont révélés aujourd'hui dans un article publié dans la revue Nature. Les chercheurs ont prélevé l'ADN ancien de l'os temporal gauche de 64 des 106 individus qui avaient été découverts en 1967 dans une cavité formée d'un puits et d'une grotte située à proximité de la pyramide de Kukulcan à Chichen Itza. Ce genre de réservoir souterrain, appelé Chultuns, renfermait une citerne d'eau et représentait pour les Mayas un lieu permettant d'accéder au royaume des dieux. La datation par le radiocarbone des différents ossements a permis de constater que des sacrifices humains ont eu cours pendant près de 500 ans à cet endroit. L'analyse de l'ADN ancien extrait de l'os temporal de ces individus a montré qu'il s'agissait uniquement de jeunes garçons, âgés de 3 à 6 ans, dont plusieurs, 16 sur les 64, étaient proches parents, voire des jumeaux identiques, homozygotes, dans le cas de 4 d'entre eux. Le rituel consistant à sacrifier des enfants visait, croit-on, à favoriser la pluie et les récoltes de maïs. Nous pensons que des individus mâles apparentés étaient sélectionnés pour honorer les héros jumeaux Ixbalamque et Unapu, qui, dans la mythologie maya, vengent leur père et leur oncle, eux-mêmes des jumeaux, qui avaient été sacrifiés par les dieux. Ils les vengent en répétant des cycles de sacrifice et de résurrection dans le but de déjouer les dieux du monde souterrain, explique par courriel le premier auteur de l'article Rodrigo Barquera, stagiaire postdoctoral au département d'archéogénétique de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionniste, MPI EVA, à Leipzig, en Allemagne, et la co-autrice Diana Hernandez du MPI EVA et de l'École nationale d'anthropologie et d'histoire, ENA, de Mexico. Des gènes et une alimentation en commun. Les quantités de carbone et d'azote mesurées dans le collagène des os indiquent que les individus sacrifiés avaient une alimentation très similaire, ce qui laisse penser que le régime alimentaire faisait partie des éléments culturels employés pour préparer les individus au sacrifice et que cette préparation débutait longtemps avant la cérémonie, avancent les chercheurs. L'aliment de base de leur diète était le maïs, mais cette dernière comprenait aussi une grande diversité de sources de protéines. Les chercheurs ont également comparé les génomes des enfants retrouvés dans le Chultun à ceux de 68 Mayas contemporains habitant la ville environnante de Tixcacaltuyub, ainsi qu'aux données génétiques anciennes et contemporaines d'autres populations de la région. Ils ont ainsi remarqué une continuité génétique entre les enfants sacrifiés il y a plus de 1000 ans et la population maya vivant aujourd'hui dans la région. En d'autres termes, cela veut dire que les anciens mayas de Chichen Itza peuvent être considérés comme les ancêtres directs des mayas qui habitent aujourd'hui à Tixcacaltuyub, et que les deux populations sont très semblables, et ce, malgré le mélange avec des individus qui n'étaient ni des indigènes d'Amérique, ni des locaux lors de la colonisation, précisent les auteurs. Une modélisation suggère que le génome des habitants actuels de Tixcacaltuyub se compose en majeure partie, 92%, de gènes provenant d'indigènes d'Amérique, des Mayas de Chichen Itza, et aussi d'une petite contribution européenne, soit espagnole, 7%, et d'Afrique, soit Yoruba, 0,03%. Les scientifiques ont également remarqué que le chromosome Y de tous les ossements humains récupérés du Chultun contenait un ensemble de gènes, un haplogroupe, provenant des Asiatiques qui ont peuplé les Amériques. Par contre, chez la moitié des habitants actuels de Tixcacaltuyub, cet haplogroupe était remplacé par un autre d'origine européenne et africaine, ce qui témoigne de la contribution des mâles européens et africains au pool génétique des Mayas d'aujourd'hui et qui indique qu'il y a eu un échange génétique entre ces hommes non indigènes et des femmes indigènes d'Amérique, soulignent Barquera et Hernandez. Variante immunitaire. L'étude a aussi permis de mettre en évidence une augmentation de la fréquence de certains variants génétiques associés à l'immunité chez les Mayas d'aujourd'hui comparativement à ce qui est observé chez les anciens Mayas ayant fait l'objet de sacrifices humains. L'un de ces variants confère une résistance contre la fièvre entérique, aussi appelée fièvre typhoïde et paratyphoïde, causée par Salmonella entérica. Ce variant aurait été sélectionné lors des épidémies survenues durant la période coloniale, notamment lors de la pandémie Coco-Littli de 1545. Les individus qui portaient ce variant dans leur génome ont eu plus de chances de survivre à une infection par Salmonella après l'introduction de ce pathogène en Amérique par les Espagnols et de le transmettre aux générations suivantes, expliquent les deux scientifiques. Il a été démontré qu'au cours du XVIe siècle, des guerres, des famines et des épidémies ont provoqué un déclin de la population indigène de potentiellement 90%. Des maladies infectieuses telles que la variole, la rougeole, les oreillons, la grippe, le typhus, la typhoïde, la fièvre entérique, la rubéole, la coqueluche, la diphtérie, la dysenterie endémique, des fièvres comme la malaria et la syphilis auraient contribué à ce déclin de la population et auraient ainsi entraîné la sélection de variants génétiques associés à l'immunité, rappelle-t-on dans l'article de Nature. Les chercheurs ont par ailleurs pu confirmer que les restrictions caloriques vécues par les premiers humains arrivés en Amérique ont permis aux variants génétiques permettant un métabolisme des lipides plus efficace d'être sélectionnés et d'augmenter en fréquence chez les indigènes d'Amérique. Et comme ces variants favorisaient des niveaux sanguins de cholestérol plus élevés en situation de disette, ils ont également permis d'accroître la biosynthèse des hormones sexuelles, qui dépendent du métabolisme du cholestérol, et par le fait même la fertilité, explique M. Barquera. Avec l'introduction des animaux de ferme venus d'Europe, l'apport en cholestérol dans l'alimentation des indigènes s'est accru rapidement. Ces variants sont alors devenus inutiles et il expliquerait pourquoi les indigènes d'aujourd'hui sont plus affectés par la diète occidentale, poursuit-il. En plus de dévoiler des détails inédits sur ces sacrifices humains pratiqués par les anciens Mayas, cette étude génétique a permis de mettre en lumière l'histoire génétique de ces indigènes du Yucatan qui ont formé une société florissante il y a plus de 1000 ans et dont on peut encore admirer les vestiges. C'était « Qui étaient les individus sacrifiés par les Mayas ?» un texte de Pauline Gravel paru le 12 juin 2024 dans Le Devoir.
Souper avec des inconnus, un texte de Rosemée Autonne T. Morin paru le 15 avril 2024 dans La Presse. Chaque mois, deux amis font le pari un peu fou de recevoir 6 inconnus pour un souper 5 services. Et ce mois-ci, je suis de la partie. Cato Langlois Muftikian et Ellie Madison ont longtemps rêvé d'un projet commun. La première se décrit comme une chef amateur qui ne veut pas travailler en restauration pour éviter de ruiner son hobby. La femme de 25 ans bosse donc pour le bar Turbo House et le gala alternatif de la musique indépendante du Québec. Le second est chef du restaurant Le Xavier à Terrebonne et musicien. Ils étaient faits pour s'entendre. Ils en sont convaincus. D'ailleurs, ils s'entendent depuis 8 ans. L'été dernier, Ellie a invité Cato à souper chez lui. Le chef de 34 ans habite une vaste colocation sur le plateau Mont-Royal et le repas réunissait des personnes de différents horizons. Cato a eu une illumination. Et si c'était ça, notre projet? Ainsi sont nés les soupers d'inconnus. Chaque mois, le duo cuisinerait un menu 5 services pour des gens qui ne se connaissaient pas. Les deux amis ont lancé un appel sur leurs réseaux sociaux respectifs. Après 3 éditions, la liste des intéressés comprend toujours une 50aine de noms. Ils comptent la renflouer sous peu et inclure des personnes dépassant leur cercle de connaissances. Le projet est d'envergure, tant sur le plan social que culinaire. Cato et Ellie déterminent ensemble le menu et tiennent à inventer des recettes. Le jour de la réception, ils font les courses à pied, ils n'ont pas d'auto, reviennent les bras fatigués et cuisinent pendant des heures. « La première fois, on a trop ambitionné », se rappelle Ellie Madison en riant. « Ça nous a pris 2 jours de préparation et on avait beaucoup trop de nourriture. On demande à tout le monde une contribution de 20 $, mais on n'arrive jamais. Heureusement, le mois dernier, mon fournisseur de viande au resto, mon beau bon bœuf, m'a offert une pièce de macreuse parce qu'il trouvait le projet cool. » Cato Langlois Muftikian surenchérit. L'idéal serait que ça poignasse pour avoir des commanditaires. Pas pour faire du cash, juste pour réunir des gens autour d'une table. C'est ça qui nous fait triper, Ellie et moi. On est toujours stressé de voir comment ils vont interagir, mais ça fait partie du pari. Quand des couples s'inscrivent, on leur explique qu'ils devront venir séparément. C'est pas pour les anxieux, ajoute Ellie. Même moi, de nature sociable, je me demande un peu à quoi ça va ressembler. Ma crainte se dissipe dès mon arrivée. Tout le monde est réuni dans la cour de l'appartement et j'en profite pour découvrir le lien qui unit les participants aux hôtes. Quand Joe a quitté Rimouski pour Montréal il y a 8 ans, c'est Cato qui l'a aidé à trouver son logement. « Moi, je suis ici parce que je sais comment Cato cuisine », lance Danny. Comme Danny, Alexis a rencontré Cato au bar où elle travaille. Le concept des soupers d'inconnus l'enchante. « J'aime découvrir l'histoire des autres, puis je suis une foodie. Tout mon argent passe dans la bouffe. » Sandrine est une amie d'amis. Puis June, elle, ne connaît ni Cato ni Ellie. Elle a, comme moi, entendu parler de leur initiative en ligne. Bien que sociable, elle trouve difficile de se faire des copains hors du travail et de l'école. Dans les bars, les gens pensent tout de suite au flirt, déplore-t-elle. Ce genre de soirée lui semble prometteur. L'apéro nous amène à discuter de notre rapport à l'alcool. Joe me montre son poignet gauche. Trois élastiques à cheveux l'entourent. Il en enlèvera un pour chaque verre qu'il boira ce soir. Après, s'il y tient, il pourra compter sur un élastique d'urgence, m'explique-t-il en exhibant cette fois son poignet droit. 4 consommations maximum. Cette technique l'aide à être conscient de ce qu'il ingère et à se demander « Est-ce que je veux vraiment ce prochain verre ?» Brillant. De notre rapport à l'alcool, on passe à nos pires histoires de rupture en public. Des discussions étonnantes pour une poignée de gens qui ne se connaissent pas. Puis, vers 19h30, on descend au sous-sol de l'appartement où est dressée une grande table. Tandis qu'Élie veille sur les derniers préparatifs à l'étage, Cato nous décrit le premier service de ce menu d'inspiration printanière. Un plat de crudités nappées de beurre noisette avec aioli royal. Suivent des asperges grillées avec crème fouettée aux queues d'asperges et citron, œufs pochés et graines de tournesol. Un portobello farci au crabe gratiné, du saumon aux agrumes avec salsa à la mangue. Et une pavlova au kiwi macérée à la menthe avec crème glacée à la vanille et chiffonnade de basilic. C'est divin. Que nos hôtes déploient tant d'efforts pour nourrir des gens qu'ils ne connaissent même pas, coucou, me dépasse. Remarquez, on en vient rapidement à se connaître. Au cours de la soirée, Cato nous parle de la situation politique en Arménie. Élie, de la solidarité dans le milieu de la restauration. Jun, du quotidien dans les refuges d'urgence pour femmes en situation d'itinérance. Danny et Joe, des expressions typiques du bas du fleuve. Arsoudre, ça se conjugue comme un verbe du troisième groupe. Alexis, des mérites de la chanson Crazy Frog. Et Sandrine, de la peintre surréaliste Mimi Parent. Sur la table, les canettes d'Old Milwaukee fréquentent les verres de vin orange. Comme les boissons, notre réunion est inattendue, mais riche. Ce souper d'inconnus somme comme un souper d'amis. J'en ressortirai près de 6 heures plus tard. Je serai la première à quitter la fête. Et Joe n'aura plus d'élastique au poignet. C'était « Souper avec des inconnus », un texte de Rosemée Autonne-Témorin paru le 15 avril 2024 dans La Presse.